Arrête de faire le bébé. Allez, dépêche-toi. Allez, j'ai pas que ça à faire, moi.
Allez, dépêche-toi.
Ça suffit maintenant.
C'est comme ça, c'est tout. C'est pas toi qui décides.
Dis merci. Fais un bisou.
Attention, je compte jusqu'à 3.
1, 2.
Bonjour à toutes, à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel, dans l'émission C'est pour ton bien. Et comme tous les mois, on retrouve Élise Fournier avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour Alexia.
Élise, tu es consultante en parentalité positive. Tu accompagnes les parents dans le chemin de la relation bienveillante avec les enfants. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'écoute. Après le chapitre sur les émotions, comment entendre ce que dit l'enfant, quels sont les obstacles à la communication.
Tout à fait.
Et pour illustrer ce sujet, nous avons choisi un extrait de film. Un film qui s'appelle « Une semaine sur deux », qui est un film d'Yvan Calberac avec Mathilde Seigné et Bernard Campan. Et c'est l'histoire de deux enfants qui sont pris dans le quotidien d'un couple séparé. Et donc la scène se passe au petit déjeuner et ce qu'on va entendre, pour moi, c'est une série de scuds et de torpilles. Et donc on va entendre ça et voir ce qu'on peut faire de cette situation.
J'ai compté le temps que vous passiez sous la douche. Moi, c'est 11 minutes 35, ce qui fait 28 litres d'eau par jour. Et Léa, 12 minutes 48. Si vous continuez comme ça, bientôt il n'y aura plus d'eau sur Terre.
Écoute Max, c'est vraiment pas le moment de nous prendre la tête avec tes problèmes écologiques.
C'est pas mes problèmes, c'est le problème de tout le monde.
Ah mais tu pues la cigarette. Je comprends pas, t'avais acheté des patchs. T'avais dit que t'arrêterais.
Oui mais les patchs sur moi ça marche pas. Quand on sort, on boit un verre, on fume une cigarette, c'est pas la fin du monde, si?
Non mais t'as aucune volonté, tu te rends compte de l'exemple que tu nous donnes? C'est pathétique.
Tu me saoules, ça va mal finir si ça continue.
Ben voilà, tout de suite. Les menaces, la violence.
C'est vraiment, c'est pas le chemin de l'harmonie.
C'est votre père qui vous sort des trucs pareils?
Et ouais, il a bien raison.
Donc voilà l'extrait qu'on vient d'entendre avec Mathilde Seigné et les deux enfants. Donc il démarre au petit déjeuner par une série de petits pics assez forts. Je trouve que c'est très violent en fait.
Et oui, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et en même temps, enfin voilà, il y a vraiment cette idée que derrière tout ce qu'on se dit, derrière ces fameuses scuds, reproches, c'est toujours, on en revient toujours à l'arme. Hein. Derrière des scuds et des reproches qu'on va formuler à l'autre, il y a l'expression masquée de besoins qui ont besoin d'être satisfaits et d'émotions qui ne sont pas clairement exprimées. Voilà, c'est toujours cette idée. Enfin, moi, j'aime bien utiliser cette image du paravent ou de l'armure. J'ai toujours aux parents que j'accompagne, allez voir derrière cette carapace, ce masque de protection que l'autre met. Qu'est-ce qu'il veut me dire, en fait?
Oui, donc quand l'enfant dit « tu pues », donc c'est assez violent. Et en même temps, ça veut peut-être dire qu'il a... C'est une stratégie qu'il utilise pour faire passer un message à sa mère.
Oui, c'est ça. Alors après, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un de nos besoins principaux en tant qu'être humain, c'est le besoin d'attention. Et qu'on va être prêt à peu près à tout pour avoir de l'attention de la part des autres, même si c'est une attention négative. Donc cette attention négative, on va pouvoir la provoquer par le fait de se disputer, de balancer des reproches, des scuds à l'autre, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'entends ce dialogue, je me dis, ok, en fait, là, la petite fille, ce qu'elle exprime, elle, c'est un besoin de confiance, parce que manifestement, la maman s'est engagée à arrêter de fumer et elle tient pas sa promesse. Elle aurait sûrement un besoin aussi de cohérence, d'exemple, de sens, parce que elle aimerait voir que quand on s'engage à faire une action, eh ben, on s'y tient. Et elle lui dit qu'elle a pas de volonté, mais voilà, en même temps, c'est, j'aurais besoin de... Et ce que j'entends, c'est ce besoin de sécurité aussi.
Oui, d'avoir un adulte fiable.
J'ai besoin de sentir que t'es fiable, que je peux m'appuyer sur toi, que je peux avoir confiance en toi, parce que moi, dans ce que je traverse dans ma vie, ben, c'est difficile en ce moment, peut-être pour moi. Et j'ai besoin de sentir que t'es un appui fiable, stable, sécurisant pour moi. Et
il faut sacrément interpréter, en fait, se poser par rapport à ce que les enfants disent en soi, déjà, pour entendre et être en mesure de répondre autre chose que du scud après. Oui. Parce que là, la maman, quand elle dit... c'est pas le moment de me prendre la tête ou tu me saoules. En réalité, elle nie complètement ce que l'enfant a à dire derrière.
Oui, et ça, en fait, ça coupe la relation. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère. Chacun reste, c'est la guerre des tranchées. Chacun reste sur sa position. Et du coup, ben, y a pas de lien. Enfin, on n'arrive pas à se mettre en lien et à rejoindre l'autre. Alors moi, j'aime beaucoup cette image qui est utilisée en communication non-violente, cette image de la colline. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais voilà, je redis ça. Mais c'est vraiment cette idée qu'on vit chacun sur notre colline. On a notre point de vue. Voilà, un point de vue qui est différent, qui n'est pas ni mieux ni moins bien que celui de l'autre, mais qui est différent. Et l'idée, ça va être quand la personne, notamment mon enfant, m'envoie des scutes, des reproches, je vais descendre de ma colline et je vais le rejoindre sur sa colline à lui, puis aller voir, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu vois d'où tu es, toi?
Donc là, les obstacles à la communication pour ses parents, donc là, c'est clairement, tu me saoules.
Oui, alors il y a le oui bah c'est bon Max là c'est tu nous saoules avec tes trucs. Bon alors là l'obstacle à la communication qui est mis en place là c'est juger, critiquer, être en désaccord. Mm-hmm. Voilà, je cherche pas à rejoindre ton point de vue ni même à lui donner une valeur, il a pas à mes yeux il n'existe même pas. Donc là c'est carrément la négation de l'autre. Voilà, ce qui en général va pas provoquer des réactions très positives en face. Et puis il y a aussi, je crois qu'ils le disent, les enfants, ah bah oui, carrément, maintenant tu nous menaces. Voilà. Bon, voilà
oui, si ça continue, etc.
Oui, c'est ça. Ah bah voilà, les menaces. Bah oui. Et donc, bah voilà, on est dans un autre obstacle à la communication. Donc, les obstacles à la communication, il y en a 12 qui ont été définis par Thomas Gordon. On en parle aussi en communication non violente. Hein. Donc après, je peux en nommer quelques-uns, mais parmi eux, il y a le fait de donner des ordres, diriger, commander. Un autre qui va être de avertir, mettre en garde, menacer. Donc là, il y a eu recours à celui-là. Moraliser, prêcher, faire la leçon. Il y a aussi conseiller, donner des suggestions, des solutions. Ça, c'est quelque chose dont on est très friand en général.
Oui, nous, parents, nous avons un peu l'impression que nous savons et que nous pouvons dire pour notre enfant ce qui est bon pour lui. Mais en réalité, quand on se positionne comme ça, je remarque que l'enfant n'a pas envie d'écouter parce que c'est pas ça qu'il cherche en réalité.
Oui, parce qu'il y a cette idée que chacun a besoin de faire ses expériences. Et même si on aimerait éviter certaines expériences à nos enfants parce qu'on aimerait qu'ils profitent des nôtres, ça fonctionne pas. Chaque vie est unique. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir ça. Après, il y en a d'autres, j'ai peut-être pas tous les cités, mais j'aime bien aussi parler de rassurer, sympathiser, consoler. C'est aussi un obstacle à la communication.
Ouais, tout à fait,
quand je fais part de... Je pense à ça. J'ai animé une conférence hier, j'ai fait part à quelqu'un de mon stress et de mon inquiétude. Et la personne m'a dit, mais tout ira bien. Mais en fait, j'ai pris juste qu'on me rejoigne sur... Ouais, j'entends que ça t'inquiète. Mmh. Ouais, ça te stresse. Bon, voilà. Et c'est juste ça.
Oui, c'est vrai quand on le vit soi-même et que nous avons des élans comme ça de vouloir protéger l'autre, de vouloir l'aider. En réalité, ça ne l'aide pas. Il a juste besoin qu'on entende son inconfort, ce qu'il vit.
C'est ça.
Oui.
Et du coup, un autre aussi, c'est complimenter, louanger, approuver, c'est la même chose, en fait. Donc, voilà, que ce soit menacer ou complimenter, finalement, ça fait le même effet.
Par exemple, ah ouais, c'est super ce que tu me dis.
T'es vraiment formidable.
Voilà. Donc là, la maman, si elle disait à son petit Max, ah, c'est génial, les calculs que tu as fait, ça montre vraiment que t'es un enfant super intelligent.
On est aussi dans l'obstacle à la communication de la même manière.
Incroyable, oui.
Par contre, si je décris et que je dis, par exemple... Ah ouais, je vois que t'as calculé ça, et quand j'entends ces calculs que t'as fait, je me dis que vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur. Le fait de préserver l'environnement, que chaque être humain soit responsable, engagé, qu'on fasse tous attention, c'est que tout le monde prenne soin de la Terre, ça c'est vraiment important pour toi.
Et clairement, ce petit garçon, il manifeste son besoin. Mais là, quand il dit... quand il parle d'harmonie, quoi, c'est tellement touchant, quoi.
Mais en fait, c'est ça qui est formidable, je trouve, avec les enfants, c'est qu'ils sont tellement connectés à leurs besoins. Enfin, tout est tellement clair, même si, parfois, il faut décoder un peu, mais... Enfin, clairement, il le dit. Mais moi, j'ai envie d'harmonie. Enfin, même dans son engagement écologique, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de contribuer. Enfin, tout est là, en fait.
Quand même, ça veut dire... Moi, j'entends quand même qu'il y a quand même un effort à faire de la part des adultes. Pour décoder, c'est-à-dire ne pas partir du principe que l'enfant va pouvoir exprimer nettement là j'ai besoin de calme, là j'ai besoin de manger, là j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Il peut avoir une attitude comme trépigner, gesticuler, dire des choses désagréables juste parce qu'il a besoin de repos ou qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui ou quoi que ce soit, mais il ne va pas le verbaliser. Donc, il y a un effort de la part de l'adulte pour aller voir ce qui se passe.
Et oui, et peut-être qu'un des principaux obstacles à ça, c'est aussi que nous, on est tellement coupés de... ce dont on a besoin en profondeur, que c'est difficile d'aller à la rencontre de des besoins profonds de mon enfant. Donc c'est pour moi aussi toujours cette démarche parallèle où je vais, moi, apprendre à mieux me connaître et être dans cette démarche aussi d'aider mon enfant à mieux se connaître. Et c'est plus nous, on va poser des mots sur ce que l'enfant, il vit, plus lui, il va apprendre justement à cheminer sur cette connaissance de soi.
Alors là, on a parlé des obstacles à la communication. Oui. Donc, en quoi consiste l'écoute réelle, en fait, l'écoute active de l'enfant?
Alors, quand on a posé tous ces obstacles à la communication, la réaction qui, en général, arrive de la part des personnes qui prennent connaissance de ça, c'est « Oui, mais alors, on peut plus rien dire. » Bah, alors si, on peut, à la place de tout ça, on peut faire de l'écoute active, de l'écoute empathique.
Alors, consiste.
Alors, l'écoute empathique, c'est vraiment cette idée de rejoindre l'autre sur sa colline. S'il y a une image, c'est celle-là. Mmh. Et ça va être cette idée d'ouvrir complètement son plateau d'accueil pour l'autre, de laisser complètement la place à l'autre pour lui permettre de cheminer et d'aller trouver ses propres solutions. Souvent, en tant que parent, un de nos objectifs, c'est que nos enfants soient autonomes. Et cette autonomie, elle passe pour moi par le fait d'être responsable et d'être responsable, auteur de sa vie et de pouvoir aller chercher à l'intérieur de soi ses propres solutions. Et ça passe par la connaissance de soi, de ses besoins, de ses émotions.
C'est lâcher le fait que nous savons pour nos enfants ce qui est bon pour eux.
Par exemple. Donc ça paraît être un bon
C'est énorme parce que
c'est énorme,
ça veut dire que laisser l'enfant cheminer dans sa pensée, dans son discours, jusqu'à ce qu'il arrive lui-même à trouver voilà, j'ai besoin de ça.
Exactement. Donc après, c'est vraiment, enfin, l'écoute active, c'est vraiment quelque chose de, c'est un outil très puissant qui nécessite voilà, un apprentissage. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Les techniques sont assez simples. C'est parfois la mise en œuvre qui peut être plus difficile parce que ça nous met très vite face à nos automatismes, nos habitudes, nos freins, nos propres émotions. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tous mes bons conseils? Parce que quand même, moi, j'ai vécu plus longtemps avant.
Donc écoute active. En gros, un process, donc tu parlais de process tout à l'heure.
Oui, alors l'écoute active, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la première chose, c'est que notre intention se voit. Donc est-ce qu'on est vraiment disponible pour écouter l'enfant? Est-ce qu'on est en train de faire autre chose ou pas? Donc ça, la première chose, c'est ça, mon intention se voit. Le langage, enfin, dans la communication, le langage corporel, c'est 93 à 95% de la communication. Donc si je suis en train de faire la vaisselle ou d'éplucher mes carottes en même temps, je ne suis pas pleinement disponible. Donc j'invite chacun à observer qu'est-ce qu'il fait quand il échange, enfin quand il est en relation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait qu'il se sent vraiment écouté. Ouais. Donc souvent ça va passer par le regard, la personne nous regarde, elle est assise à notre hauteur, elle est engagée physiquement, souvent avancée vers nous, elle est présente, elle a un visage ouvert, disponible. Voilà, c'est tout ça qui va traduire le fait qu'on va pouvoir commencer à parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, on peut juste écouter, être dans une écoute silencieuse, être dans des ah oui, ah ouais, je vois. Finalement, accuser réception. Voilà. Ça peut être déjà l'écoute active, la base, c'est ça. Et écouter, c'est avant tout se taire. On n'a pas besoin d'intervenir, finalement. C'est juste laisser l'autre aller cheminer à voix haute, en étant dans ce soutien, cette présence qui va apporter sécurité et confiance, et qui va lui permettre ensuite de cheminer vers ses propres solutions. On peut parfois aussi formuler des messages qu'on va appeler des messages de validation. Donc ça va passer par, il y a deux sortes de messages de validation. Soit on va dire tu te sens et chercher ce que peut éprouver l'autre, quel sentiment. Donc ce qui est difficile dans ce message de validation, c'est que souvent on se rend compte que on a très peu de mots, notre champ lexical est peu varié sur les sentiments, à part t'es en colère, t'as peur, t'es content, t'es triste. Bon, alors il y a plein de listes de sentiments qu'on peut trouver hein, sur internet. Vous mettez liste de sentiments CNV, vous pouvez trouver plein de, et affiner. Oh là là, là, t'es furieux. Oh là là, je te sens tout déprimé, t'as le cafard.
Oui, et l'enfant le dit d'ailleurs, j'ai remarqué, t'es en colère. Ah non, je suis pas en colère, c'est pire que ça. Oui, donc tu es vraiment...
Ouais, t'es vraiment hors de toi.
Il réajuste.
Exactement, et ça c'est hyper important. Merci pour ton partage. Si vous vous trompez de sentiment, c'est pas grave, parce que la personne en face, elle va vous le dire. Oh là là, ben, je vois que t'es triste là. Mais non, je suis en colère. Okay. Voilà, donc ça, c'est, du coup, on peut tenter, en fait. De toute manière, on se connecte à l'autre, on est présent, c'est l'intention qui compte. Et ensuite, si la personne sent que vous êtes vraiment là pour elle, elle va s'autoriser à réajuster. Et le deuxième type de message de validation, ça va être de reformuler avec les mêmes mots ou avec des mots différents. Donc, t'es méchante, maman. Ah oui, là, tu trouves que je suis méchante. Ah bah, si j'ai bien compris, là, tu trouves que je suis vraiment une méchante maman. Voilà, on va juste répéter, en fait. Et après, hop, ça renvoie à l'autre. Et là, elle va vous dire, bah oui, parce que tu me dis tout le temps non pour ça. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Après, ben, souvent, il faut refaire plusieurs messages d'écoute. Il y a plusieurs retours. Et puis après, à un moment donné, on voit qu'il y a une détente qui s'opère.
C'est ça. Voilà. C'est, on sent la détente de l'enfant, qu'il se sent entendu et il est prêt.
Il y a une détente à un moment donné.
À partir voilà. De
après, dans le moment, les moments d'écoute aussi. Bon, là, c'est hyper rapide. Hein, mais dans les moments d'écoute, il peut y avoir aussi des grands moments de silence qui s'installent. Et c'est souvent à la suite de ces moments de silence qu'il y a une solution qui émerge chez l'autre. Donc ça peut être difficile en tant qu'écoutant, mais à ce moment-là, vraiment, on se tait, on ferme la bouche et on est juste dans la présence. Voilà. Et puis, on évite les conseils et en même temps, on peut partager son expérience.
Bah écoute, merci beaucoup, Elise, pour tous ces conseils qui sont très pertinents et précieux. On se retrouve le mois prochain. sur d'autres sujets,
oui,
toujours en relation avec les
aventures.
Enfants. Continuez à partager sur le site de Radio Grand Ciel. Et d'ici le mois prochain, portez-vous bien.
À bientôt.
À bientôt.